Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why,
this is why, this is why I'm hot, hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique. Soft Power depuis le Salon du Livre en public jusqu'à 20h30. Alors ce soir, nous allons aborder un sujet lié à l'édition et donc au Salon du Livre, un sujet qui concerne aussi l'audio, le son. Je veux parler des livres audio et nous allons consacrer l'intégralité de cette émission aux livres audio. Et on n'aura pas l'invité de 20h ni le débat ce soir exceptionnellement parce que nous sommes au Salon du Livre. Le livre audio, c'est un marché en progression exponentielle, plus 20% en France. On va parler des raisons de cette progression, de comment ça se fabrique un livre audio. On va parler de son prix, la répartition des droits. On évoquera les coûts de production, les différents secteurs, quels sont les livres qui marchent et ceux qui marchent moins, quels sont les publics de ces livres, des comparaisons internationales aussi, notamment avec les États-Unis où le marché est très important, plus de 2 milliards de dollars par an. On évoquera également l'avenir du livre audio dans tous ses aspects, que ce soit par rapport à des questions de monopole liées aux GAFA, questions de piratage, questions d'enceintes connectées ou pourquoi pas de podcast. Voilà pour le sommaire de cette émission un peu spéciale depuis le Salon du Livre de Paris. Cette émission est exceptionnellement enregistrée, en public donc. Elle est réalisée par Véronique Villa avec en régie toute une équipe. Emmanuel Morse-Duncan, Martin Guénard et Sébastien Huel. Cette émission a été préparée par David Lavaux. Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power, et en podcast chaque semaine sur le site de France Culture ainsi que sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power sur France Culture jusqu'à 20h30. Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Alors ce soir nous avons trois invités principaux du côté, je dirais, des fabricants, ou en tout cas des côtés des distributeurs et des producteurs. Et puis nous aurons des artistes aussi, et même des auteurs qui vont, selon plusieurs formats, venir lire des textes, leurs textes pour certains. Ce sera le cas de Véronique Ovalde à propos de « Personne n'a peur des gens qui sourient », un roman qu'elle vient de publier chez Flammarion. On aura deux comédiens, Benoît Alleman et ainsi que Jean-Claude Donda et Guillaume Briat, trois en fait, qui liront Terreur de Dan Simmons ainsi que Astérix le Gaulois, qu'on connaît un peu à vrai dire. Et puis côté production, trois invités, d'ailleurs invités E-E-S, Laure Saget, responsable des livres audio et directrice du développement du livre audio chez Madrigal. Madrigal, c'est à la fois Gallimard et Flammarion. Bonsoir. À côté, Constance Stipula, directrice d'Audible. Là, c'est une filiale à 100% chez Amazon. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et puis, troisième invité, Valérie Lévy-Soussan, qui dirige Audiolib, qui est une filiale à 100% d'Hachette, je crois.
Hachette Albin Michel.
Hachette Albin Michel. Bonsoir.
Bonsoir.
On peut commencer peut-être avec vous, Zoé Sfez, par quelques chiffres, à la fois des chiffres France, et puis on reviendra tout à l'heure sur des comparaisons plus internationales.
Oui, parce qu'en fait, les chiffres pour 2017, je crois que d'ailleurs vous, Audible, Constance Cibula, vous avez donné vos chiffres très récemment pour l'année 2017, pour l'année 2017, sous 2018 aussi. En gros, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a une croissance de 20% sur le livre audio, c'est ça, en France, cette année ?
Non, c'est trop faible. Donc nous, on fait une étude ensemble avec l'Institut Opinéa depuis 3 ans. Et donc, on est passé de 8% des Français qui ont écouté un livre audio pendant les 12 derniers mois en 2017 à 12% en 2018. Et cette année, c'était 16%. Et c'est donc une hausse de 38%, donc c'est une croissance assez conséquente.
Et alors du coup, en termes de chiffres de livres, combien de livres audio on a écouté? Parce que vous avez tous des offres différentes, c'est des livres audio qui s'achètent à l'unité. Et vous, Audible, vous avez une offre par abonnement. Alors concrètement, par exemple, est-ce qu'on a une idée du nombre de livres audio qui ont été conçus sur cette année 2018?
Valérie Lévy-Soussan.
Alors écoutez, nous par exemple, on a produit 120 titres, 120 nouveautés. Je pense qu'Audible peut donner aussi les chiffres de sa création.
500 cette année.
Voilà.
Et effectivement, Écoutez Lire a produit à peu près 70 titres cette année et a en projection d'en produire 80 et 100 les années suivantes.
Et en fait, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que il y a 10 ans, quand on a commencé, enfin nous, le livre audio, il y avait peut-être 150, 200 nouveautés par an, et que là, on est plutôt sur un rythme de 500 à 600 nouveautés par an, ce qui est peu par rapport au marché du livre, mais ce qui est une très très forte progression.
Alors on va revenir sur toutes ces progressions, aussi sur les différents secteurs, mais qu'est-ce qu'on peut dire, Zoé, à ce stade de ce marché ?
Bah, ce marché, il a visiblement, en fait, il a mis beaucoup de temps à démarrer en France, je crois, et vraiment beaucoup plus que dans d'autres pays, notamment la Grande-Bretagne, notamment les États-Unis, évidemment, pour des raisons culturelles, d'ailleurs, qui sera assez intéressant de développer avec vous, et qu'on a l'impression que depuis 2 ans, on est sur une vraie pente de démarrage, vous l'avez dit, 8, puis 12, puis 17%, c'est, en fait, voilà, ça commence à devenir enfin exponentiel, lié aux investissements que vous faites, et que Audible aussi a fait avec, pour la première fois, je crois, en 2017 et 2018, des vraies grosses campagne de publicité en France, et ce alors que, et on va le dire plus tard, on va revenir sur les chiffres américains et en Grande-Bretagne, on est sur le même type de progression, mais là on avait des marchés qui avaient démarré bien avant, c'est ça ?
C'est exactement ça. Donc dans les pays anglophones et aussi germanophones, donc l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, il y avait déjà un marché livre audio physique, c'est-à-dire la CD elle-même a déjà fait le succès, le premier succès du livre audio. Ça a commencé dans les années 90. Je me rappelle très bien, je suis allemande, je me rappelle très bien des livres audio Harry Potter à l'époque. Et du coup, de là, il y a aujourd'hui un pourcentage dans le chiffre d'affaires du secteur du livre qui revient à 5 jusqu'à 10% dans les pays anglophones et germanophones. Tandis qu'en France...
5 ou 10% du marché global, vous voulez dire du livre.
Exactement, exactement. Tandis qu'en France, le marché CD, c'est assez stable pendant des années maintenant, environ 1% des chiffres d'affaires du secteur du livre, ça ne se développe pas. Donc le vrai développement, ce n'est pas sur le digital, donc ce n'est pas un succès du livre audio percé, c'est le succès du livre audio digital numérique.
Avec les différents formats sur lesquels on va parler également. Un petit point sur l'international, Zoé.
Alors l'international, la Grande-Bretagne, vous venez de le citer, je crois que sur la Grande-Bretagne, alors laissez-moi retrouver mes notes. Alors aux USA, on est sur 50 000 livres qui ont été produits, je crois, cette année. Donc vous voyez les chiffres qui sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants qu'en France. On est, je crois, à un chiffre d'affaires du livre audio qui est à 2 milliards d'euros, ce qui nous paraît à nous quand même assez fort. Donc je crois que c'est 3 milliards au niveau mondial et 2 milliards qui sont uniquement sur les États-Unis, un pays où, par ailleurs, il y a eu, je crois, la création des Audi. Les Audi, c'est cette espèce d'Oscar dévolu au livre audio et à la création audio avec des véritables stars du livre audio qui en sont à 12 000 livres audio enregistrés dans leur carrière, donc des acteurs qui ont maintenant des grands articles. Il y a même une presse professionnelle qui, je crois, s'est développée liée au livre audio aux États-Unis. On a de grandes stars qui enregistrent aussi, Meryl Streep, qui le font. Alors, ça va être une question qu'on peut se poser, mais probablement pour des tarifs relativement importants qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas encore, je crois, vous payer. Mais ça dit aussi l'engouement et l'argent, en réalité, qu'il y a aux États-Unis. Je crois qu'aux États-Unis, on dit qu'il faut que pour qu'un livre audio soit rentable, il faut en vendre plus de 1 000, c'est ça ? Est-ce que c'est le cas aussi en France ou pas ?
Oui, même je trouve que 1 000, c'est...
Oui, j'imagine qu'avec Meryl Streep, c'est pas 1 000.
Non, je pense qu'on est plutôt entre 1 000 et 2 000. Entre le physique et le numérique, le physique continue à exister, y compris aux États-Unis, parce que les gens sont attachés en voiture à des CD, ou la jeunesse aussi, les jeunes écoutent encore des CD.
Alors mais, là, c'est le road trip, c'est sûr que quand on habite l'Arizona et qu'on passe 6 heures pour aller, je ne sais pas, de Denver à une autre ville, c'est évident que là, on écoute des livres dans sa voiture.
Les Américains ont été les derniers à garder des lecteurs de cassettes dans leur voiture. C'est-à-dire qu'on pense toujours aux nouveaux équipements de voiture, mais il y a plein de vieux pick-up, justement, aux États-Unis qui ont gardé des cassettes et maintenant des CD. Mais effectivement, c'est plutôt quand même autour de 2000 exemplaires pour rentabiliser une production de qualité.
Mais on va d'ailleurs parler des usages, mais les usages, effectivement, aux États-Unis sont essentiellement sur la voiture, parce qu'on est dans un pays où on conduit énormément, alors qu'en France, on va en parler peut-être avec...
Du drive time, on pourrait dire.
Drive time.
Alors, repartons peut-être au début, tout simplement, avec vous, Laure Sager, vous êtes directrice du développement du livre audio chez Madrigal, à savoir Gallimard et Flammarion. Ça s'appelle Écouter, lire, c'est ça, et ça existe depuis 15 ans dans différentes formes.
Oui, Gallimard a été en fait assez précurseur à l'époque. C'est une petite cellule qui a été créé d'abord autour des livres jeunesse, puisqu'il y a vraiment cette tradition d'écouter les livres lus en jeunesse. Et il y a eu cette extension vers...
En gros, on met ses enfants, on les assoit dans leur chambre et on leur met un CD.
Oui, le parent fatigué, épuisé, n'a pas toujours l'énergie pour lire lui-même le livre et donc aura
vous
grand
parlez,
plaisir.
C'est une expérience personnelle, voilà, que, donc vous témoignez.
C'est du vécu, et effectivement, c'est comme ça que les choses ont commencé. Et ça a commencé aussi, d'ailleurs, pour les enfants qui ne savent pas lire. C'est d'ailleurs un des axes qu'on développe. C'est comment le livre audio est une manière d'aborder la littérature et la lecture, mais on le redéveloppera certainement
plus tard. Sans oublier aussi, c'est un marché important et qu'il ne faut pas négliger, évidemment, c'est aussi un livre pour les publics aveugles.
Tout à fait. Originellement, il y avait vraiment cette niche qui a été suivie avec beaucoup d'attention. Et c'est aussi dans ce cadre-là que la littérature adulte avait un sens en livre audio. Effectivement, depuis une quinzaine d'années, Écouter Lire s'est vraiment attaché à offrir la littérature qui est très caractéristique chez Gallimard, c'est-à-dire la grande littérature lue par des grands lecteurs avec une qualité de production qui est vraiment très soignée. C'est ce que je voulais moi souligner, c'est l'importance de la qualité de production. On produit nous toujours avec un réalisateur artistique dans le studio. Il y a une deuxième oreille qui est toujours là en plus de celle de l'ingé son. Et qui vient apporter...
Un peu comme sur ce plateau où il y a un ingénieur du son, il y a plusieurs personnes en cabine et une réalisatrice.
Exactement, c'est très important d'avoir cette deuxième oreille pendant l'écoute, qui ne soit pas une oreille technique, mais une oreille artistique.
Comment vous expliquez cette progression, justement, depuis une quinzaine d'années, si on sort des publics traditionnels qu'on a évoqués juste avant? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette mutation? Et c'est une question, bien sûr, qui s'adresse à vous trois.
Alors, pour Laurent ma part, sur la partie numérique, je pense que ce qui s'est développé, c'est l'habitude d'avoir besoin d'accès à des contenus culturels au moment où on le souhaite. Or, là-dessus, le livre audio était précurseur même dans sa version CD, puisqu'effectivement, on pouvait écouter un livre audio à n'importe quel moment en mettant son CD. Ensuite, évidemment, les usages se sont développés à travers le numérique. Aujourd'hui, si vous regardez dans le métro, tous les jeunes ont leur smartphone avec des écouteurs. Et là-dessus, il y a vraiment des passerelles entre l'écoute de la musique et l'écoute du livre audio. L'audio est devenu vraiment une manière beaucoup plus directe d'aborder les contenus.
Est-ce que vous diriez, Laurent Sager, qu'un livre audio, c'est de la lecture ou est-ce que c'est de la musique? À quoi ça se rapproche le plus, selon vous?
Pour moi, ça se rapproche beaucoup plus de la lecture. Ce que je retiens, c'est que l'évocation poétique est extrêmement puissante, mais là-dessus peut-être que mes collègues ont des choses à dire.
Valérie Lévy-Soussan, vous êtes directrice d'Audiolib, une filiale notamment d'Hachette et d'Albin Michel.
Alors justement, par rapport à l'événement quand même qui est intervenu depuis 2-3 ans, c'est vraiment l'explosion des smartphones. Je veux dire qu'au départ, on l'attendait. Quand
donc
il y
c'est
avait
une révolution qui vient de l'appareil.
Tout à fait. L'appareil
et de la
qui
4G
permet,
aussi, je crois.
Et
de la 4G.
Il y a les smartphones, la 4G. Après, effectivement, les plateformes existaient déjà, mais les moyens d'accès à ces contenus et à ces fichiers qui sont quand même assez lourds, hein, des fichiers son, c'est pas de l'EPUB, voilà. Donc il fallait vraiment qu'il y ait les bons tuyaux et les bons appareils. L'équipement des Français en smartphone, donc ces téléphones, a été exponentiel depuis 5 ans. Et ça a été vraiment la transformation. Après, effectivement, il y a Audible, il y a iTunes, il y a beaucoup de moyens d'accès à de librairies numériques, mais ça a été vraiment la révolution. Et du coup, effectivement, aussi, l'usage des podcasts qui passent par ces mêmes smartphones, le fait d'écouter, au moment, comme tu l'as dit, au moment où on le souhaite, des émissions, des choses comme ça, de la voix. Et ça a été vraiment un changement comme ça dans ses habitudes.
Constance Stipula.
Voilà, donc je peux juste soutenir ce que mes deux collègues ont déjà évoqué. Sinon, si pas seulement soutenu par la technologie elle-même, donc la naissance du smartphone, il y a aussi de nouvelles enceintes qui ont été lancées, la montre connectée, le smart speaker qui donne un autre accès au contenu audio. Du coup, ça se développe, ça progresse plus. Et ensuite, il y a deux autres facteurs qui jouent énormément, et c'est d'abord la technologie elle-même, donc les applis optimisées pour l'écoute des contenus audio parlés, c'est-à-dire vous avez par exemple dans l'appli Audible la possibilité d'adapter la vitesse, vous avez une qualité d'écoute impeccable, vous pouvez mettre des mises en veille, vous pouvez partager des extraits, etc. Donc tout cet aspect ludique qui joue aussi, qui fait le plaisir encore plus vif, et finalement bien sûr c'est l'étoffement d'un catalogue beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire en 2017, quand on a commencé, il y avait plutôt des titres de fond. Tandis qu'aujourd'hui, on a complètement renversé cette logique et on cible, on travaille sur les nouveautés, c'est-à-dire sur les publications en simultané.
Il y avait déjà un peu de nouveautés.
Oui, clair. Mais disons que la logique de l'édition s'est quand même beaucoup développée vers les nouveautés les années dernières.
Et il y a aussi quelque chose dont vous m'aviez parlé, Constance Ipula, parce qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans, et d'ailleurs c'est très intéressant de voir comme à chaque
fois
de nos rencontres,
ouais,
la progression est énorme. Il y a aussi, vous l'aviez dit, certains freins culturels qui existaient en France, justement l'idée que c'était réservé aux enfants et aux malvoyants, qui avait un côté, disons-le très concrètement, pas très sexy au lit de Vedreau en France, versus l'Allemagne, les États-Unis ou la Grande-Bretagne, où il y avait, vous me disiez-vous, vous qui êtes allemande, et d'ailleurs c'est intéressant de regarder dans quel ordre Audible s'est lancé, je crois qu'on n'était pas du tout les premiers en France, alors qu'on est censé être un grand pays de littérature. Quels étaient les freins peut-être culturels aussi à l'explosion de ce livre audio? Pourquoi est-ce que ce n'était pas si sexy il y a 4 ans de dire j'achète des livres audio?
Alors je crois que le frein culturel, en fait, il a existé. Moi je suis allée dans différents pays pour parler du livre audio, il a existé à peu près dans tous les pays. Et vous parliez de l'Angleterre, qui est un marché un peu comparable, en avance de nous, mais un peu comparable au nôtre. En Angleterre, en fait, les livres audio ont été créés dans les années juste après la Première Guerre mondiale, avec tous les anciens combattants anglais qui revenaient, qui avaient été gazés, brûlés, etc. Et il y avait beaucoup d'aveugles. Et donc, cette idée que le livre audio est quelque chose pour permettre à des personnes qui ne peuvent plus voir est ancrée de façon très tenace depuis plus d'un siècle.
Dans l'inconscient de tout le monde.
Voilà, dans l'inconscient de tout le monde. Et donc, chaque pays a lutté, effectivement, contre, en disant, c'est très bien, mais ce n'est pas qu'une prothèse d'écouter des livres. C'est aussi un plaisir, et c'est aussi un plaisir poétique.
Alors, écouter des livres, on va le faire. Nous avons proposé à Véronique Ovaldé, qui est parmi nous, écrivaine, qui vient de publier « Personne n'a peur des gens qui sourient », très beau titre d'ailleurs, chez Flammarion. Et on va peut-être commencer tout simplement par vous écouter. Ensuite, on vous posera quelques questions. On est au Salon du Livre, on parle du livre audio, c'est Soft Power sur France Culture. Et nous avons Véronique Ovaldé au micro.
Gloria ne parle plus à personne. Son chien même, son affreux chien jaune qui s'appelle Michelangelo, parce que c'était ainsi quand elle l'a récupéré, mais dont elle ne prononce jamais le nom. Son chien jaune, donc, la comprend sans qu'aucun mot ne sorte de sa bouche. Gloria habite dorénavant dans un territoire sec, mais merveilleusement cristallin, où aucune crampe, aucune arthrose, aucun chagrin, aucune menace jamais ne l'empêche. C'est une mer de broussailles et de hauts châtaigniers qu'elle surplombe du haut de sa terrasse. Elle sourit en permanence. Personne n'a peur des gens qui sourient, n'est-ce pas? Elle ne parle plus. Elle n'a plus rien à dire. Il faut tenir sa langue, puisque les choses, quand Gloria les transformait encore en paroles, paraissaient vraiment trop biscornues et faisaient naître des pensées urticantes. Inutile de s'entêter. Elle n'arrivera jamais à rien formuler avec pertinence et fluidité. Alors Gloria se tait. Elle vit sur d'autres cycles. On l'appelle la Marcage au village, ou la Amutulitu. Elle a l'air tellement inoffensive. Il n'y a plus rien de féroce en elle. Que fait-elle donc de la monotonie de ses journées? Eh bien, essentiellement des balades avec son chien jaune, et elle cultive sans elle un carré potager envahi de roses trémières. Elle hache du persil, des noisettes, de l'ail, tout ce qui peut être haché. Elle adore ce geste, précis, perpétuel, sonore. Elle prépare des pâtes au ragoût et à la tomate, elle mange des pêches en été et des clémentines l'hiver, petites, sucrées, parfaites. Elle lit de la poésie, parce que la poésie n'ordonne rien et qu'il s'agit d'autre chose que de mots. Elle a vraiment de plus en plus de mal à supporter que personne n'arrive à la fermer. Alors elle médite, assise sous l'auvent de canis sur le toit terrasse de sa maison. Elle met Bartok ou Bach ou du klezmer sur la chaîne Hi-Fi préhistorique et éternelle du salon. Elle médite, ruminer ses six laits, et elle respire l'odeur du maquis. Il faut dorénavant s'attacher aux choses minuscules, aux figures des lézardes sur le sol, à la tramontane qui fait ondoyer le faîte des arbres, aux carreaux froids et bleus de la cuisine, aux draps blancs en coton si usés qu'on croirait des ailes de libellules, aux ravines remplies de poussière derrière les meubles, au mouvement des nuages, au raffinement de cette tasse en porcelaine avec son ébréchure sur le bord. Il faut s'attacher aux détails, parce que leur multitude, avec un peu de chance, fera apparaître un grand motif plein de sens. Et si cela ne se passe pas ainsi, si le motif cosmique reste incompréhensible, alors on demeurera délicatement et acrobatiquement penché sur la prolifération des détails, parce que lorsqu'on a choisi le silence, on voit mieux cela va sans dire, on voit vraiment mieux, et on cesse d'accorder aux choses plus d'envergure et d'importance qu'elles n'en recèlent.
Merci infiniment Véronique Covaldé.
Alors il n'y avait pas de silence, malheureusement.
Nous sommes en public avec tous les détails du public au Salon du Livre. Une question peut-être, là vous avez choisi de lire vous-même votre livre, non seulement sur ce plateau ici, France Culture au Salon du Livre, mais vous le faites donc dans ce livre audio. C'est un choix, on aurait pu imaginer qu'un acteur le fasse. Quelle est la...
Alors, je crois que personnellement j'aime énormément lire, je suis une lectrice et une liseuse en fait. Je suis quelqu'un qui aime lire aux autres. Et je crois qu'il y avait ça d'une part, donc j'ai beaucoup de plaisir à lire mes propres textes, les textes des autres aussi d'ailleurs. Mais et ça donne quelque chose en plus, le fait de lire son propre texte. C'est-à-dire en fait, j'ai toute liberté par rapport au texte. C'est-à-dire qu'un comédien, il peut absolument rien changer au texte qu'il est en train de lire. Ce serait malvenu quand même. Alors que moi, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et si ça me semble pas complètement audible, puisque le livre au départ, je l'écris. Qu'il soit lu avec des yeux et non pas avec des oreilles, puisque je suis convaincue qu'en effet on lit avec les oreilles. D'ailleurs, les malvoyants nous disent toujours, quand je vais les voir à la Fondation Valentin Houy, ils me disent toujours j'ai lu votre livre, et ils l'ont lu avec leurs oreilles simplement. Et donc, en l'occurrence, moi, ça me permet de déroger autant que je veux au texte lui-même afin de le rendre plus présent à l'oreille d'un auditeur.
Vous pourriez faire évoluer le livre par la suite, par exemple pour l'édition de poche, vous retiendriez des passages qui auraient été changés ?
Oui, je pourrais faire ça. En fait, je le fais assez régulièrement quand je fais des spectacles de lecture avec des musiciens ou avec d'autres artistes. Donc, je modifie et je me sers beaucoup de mes petites modifications pour les livres audio.
Mais on va peut-être en parler avec, effectivement, nos éditrices de livres audio pour savoir quelle est justement cette relation, comment on le fabrique. Mais je me rappelle avoir interviewé récemment Mathias Sénard qui avait été... à qui on avait proposé de lire son propre livre Zone, qui n'est, pour le rappeler à certains, qu'une seule et même phrase, ce qu'il avait aussi mis face à ses choix esthétiques d'écrivain. Est-ce que vous, à force de commencer à lire vos livres, vous pensez que ça déteint aussi sur la manière dont vous écrivez les suivants, ou pas ?
Ah, mais de toute façon, j'écris tout haut. J'écris en marmonnant tout le temps.
Vous marmonnez quand vous écrivez ?
Oui, je marmonne. Donc en fait, je dérange personne, hein. Je marmonne.
Vous savez, Flaubert disait ça aussi, quand on lit son journal.
Oui, enfin lui c'était le, oui, c'était encore plus.
Il gueulait.
Oui, c'était le gueuloir. Moi je, non, justement je suis
discrète.
une bonne colocataire. Je ne hurle pas. Et donc, le fait de marmonner, ça veut dire qu'on a une certaine musique, un certain souffle et qui correspond évidemment à ma propre voix. Donc aussi c'est assez simple pour moi de les lire. Et quand par exemple quand on fait ce qu'on disait tout à l'heure, la production du livre audio, parfois on est obligé de revenir sur des petits passages qui ont été un petit peu savonnés, des choses comme ça. Et c'est ce qui est le plus difficile apparemment de refaire en fait en gros des rustines, vous voyez. Ouais. Et moi c'était très facile et parce que c'est mon rythme. Parce que c'est ma voix, donc je ne change jamais en fait ce rythme-là. Une phrase, je la lirai de toute façon toujours de la même façon ou à peu près.
Ah, c'est intéressant.
Et si vous demandiez à un comédien de le faire, vous vous sentiriez un peu, comment dire, ça serait
dépossédé
par votre...
Oui, alors il y a eu une ou deux fois, tout au début, des comédiens qui ont lu mes livres. Alors en fait, pour tout vous dire, je ne les ai pas écoutés en fait.
Merci.
Je suis désolée.
Pourquoi ?
Je ne les ai pas écoutés. En fait, j'ai écouté un jour le début d'un livre audio et
mais
c'est troublant comme d'écouter son propre livre. Cela dit, je m'écoute pas non plus les lire. Hein. J'ai pas mon CD chez moi en disant tiens, je vais écouter mon livre lu par moi.
Je
ne relis pas mes livres. Je n'écoute pas mes livres. Ça me paraît assez logique. Mais en plus, ce qui m'avait troublé, c'était qu'une fois, il y avait une faute dans un mot et donc ça m'avait beaucoup troublé parce qu'il y a un mot qui était un nom de fleur ou d'arbre qui était les jacarandas. C'était jaracandas qu'il était dit par la comédienne. Alors ça m'avait beaucoup troublé. Donc ça avait été corrigé, bien sûr. Mais c'est pour ça après, je me suis dit, plus jamais j'écoute, en fait. Puis j'ai pas envie d'écouter mes livres, en fait.
Mais justement, on peut peut-être parler de la question de la fabrication. Je vous vois effectivement au Pinet du Chef. Il y a, j'imagine, des auteurs comme Véronique Covaldé qui ont envie de lire leurs livres et que d'ailleurs, probablement, ça perturbe de l'entendre dire par quelqu'un d'autre. Et j'imagine qu'il y a des auteurs, pas du tout, qui ne se sentent pas du tout de faire cet exercice et qui préfèrent au contraire s'en remettre à des comédiens professionnels. Comment ça se passe justement ? Et est-ce que ça fait partie des questions que vous débattez dès la signature du contrat ou pas encore ?
Alors, dès la signature du contrat, pas nécessairement, mais oui, on essaye de poser la question. Un auteur, en fait, il va se manifester spontanément s'il souhaite lire son livre. Et à ce moment-là, parfois, on ira en studio et on lui dira, on va faire un test. C'est arrivé avec Pierre Lemaître, qu'on n'avait jamais entendu lire quoi que ce soit, ou un petit peu à la radio, enfin, voilà. Et on s'est dit, attends, un livre de 16 heures ouais. pour Au revoir là-haut, on va pas se lancer comme ça. Alors on a essayé de le convaincre, un comédien, et puis finalement ça s'est réglé en studio. On a fait un essai, on a vu qu'il savait parfaitement lire, qu'il connaissait son livre et qu'il aimait ça comme vous. C'était un liseur. Donc ça a été très bien. Et puis de temps en temps, effectivement, en général, plutôt les auteurs préfèrent écouter des comédiens, mais peuvent donner leur avis sur le casting.
Véronique Ovaldé, est-ce que c'est un nouveau métier d'une certaine manière? On a l'impression que c'est quand même notre job de lire. Comment vous voyez cet aspect-là des choses?
Et en fait, c'est intéressant cette question-là parce que je me rends compte que le public, les auditeurs, mais le public aussi est plus à même actuellement d'écouter lire. On remarquait avant, il y a quelques années, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on disait justement qu'en Allemagne, il y avait beaucoup de lectures publiques et qu'il y avait toujours énormément de gens qui venaient écouter un auteur. En général, c'est un auteur qui lisait son texte. Et je me souviens, il y a une vingtaine d'années, c'était quand même, en France, on avait l'impression qu'on allait écouter quelque chose d'absolument soporifique, un auteur qui lit son texte, ou ça allait être terrible. Et il y a maintenant une espèce d'appétence, un vrai goût qui s'est formé à ça. Alors sans doute aussi grâce à des festivals qui ont beaucoup organisé des rencontres, comme je le disais, entre des comédiens qui lisaient des textes littéraires ou des auteurs qui lisaient leurs propres textes, et puis des musiciens ou des lectures dessinées. Il y a eu comme ça une espèce de plus grande inventivité autour de la lecture et finalement de l'écoute de la lecture. Donc je pense qu'en effet, je ne sais pas si c'est un nouveau métier qui se fait là, je ne sais pas de quelle manière ça va se déployer et ça va, en France, mais il est évident qu'il y a quelque chose en effet qui se passe au niveau du livre entendu.
On va vous libérer, Véronique Ovaldé, parce que vous avez d'autres activités sur ce salon du livre. L'ouvrage s'appelle, c'est un roman, Personne n'a peur des gens qui sourient, ça vient de paraître chez Flammarion. Un extrait de ce livre. Pendant longtemps, Gloria se repassa cette conversation. Elle y repensait même quand elle était dans les bras de Samuel. Il ne s'agissait pas d'un secret, il ne s'agissait pas de quelque chose qu'elle cachait à son bien-aimé, il s'agissait d'un livre audio. Non. Ça, c'est une formule que j'ai rajoutée. Merci infiniment d'avoir Bravo. Été parmi nous au Salon du Livre. Une Merci. Question peut-être pour nos trois invités. Nous sommes au Salon du Livre, c'est France Culture, Soft Power jusqu'à 20h30. Nos invités sont Valérie Lévy-Soussan, directrice d'Audiolib, une filiale d'Hachette et d'Albin Michel, Constance Stipula, directrice d'Audible de Amazon, et puis Laure Sager, directrice du développement du livre audio. Écoutez lire chez Madrigal, à la fois Gallimard et Flammarion. Une question pour toutes les trois. Quels sont les livres qui marchent par secteur? Est-ce qu'au fond, on suit les best-sellers, et les best-sellers audio sont ceux qui sont des livres qui ont été des best-sellers en vente librairie? Quelques exemples peut-être aussi, l'une et l'autre. On commence par vous, Laure Sager.
Alors, d'une manière générale, effectivement, depuis qu'on arrive à caler la sortie des livres audio sur la sortie des livres papier, ce qui est un exploit, puisque...
Depuis quand, d'ailleurs, on peut peut-être poser cette question, parce qu'elle est importante.
Pour écouter lire, c'est assez récent. Ça date d'une année à peu près. Je pense que pour Audiolib, c'est plus récent.
On a commencé très tôt, parce qu'on avait ça dans le viseur.
Ça veut dire que l'écrivain doit d'avoir terminé.
C'est-à-dire
que
oui, en fait,
son livre sur épreuve.
Voilà, la remise des épreuves doit être suffisamment anticipée pour qu'on ait le temps d'organiser l'enregistrement, qui se déroule en général sur plusieurs jours en fonction de la durée du livre.
Combien de temps pour un livre en moyenne?
Ça va de 2 jours à une semaine, à plusieurs semaines pour Le Trône de Fer, par exemple.
Parce qu'un livre, c'est quoi? C'est au moins une dizaine d'heures, quand même.
En général, c'est un minimum d'une dizaine d'heures. Pour 300 pages, on est sur une dizaine d'heures. Sur Le Lambeau, qui est un gros livre, on est sur 17 heures, 18 heures. Voilà, donc c'est...
Alors, je vous propose justement de l'écouter, un extrait du Lambeau, puisque vous l'avez annoncé, Philippe Lançon. Il est lu par Denis Podalydès, un livre Gallimard. On a choisi un extrait, je crois que c'est le début du second chapitre.
Chapitre 2. Tapis volant. Je suis toujours agacé par les écrivains qui disent écrire chaque phrase comme si c'était la dernière de leur vie. c'est accorder trop d'importance à l'œuvre ou trop peu à la vie. Ce que j'ignorais, c'est que l'attentat allait me faire vivre chaque minute comme si c'était la dernière ligne. Oublier le moins possible devient essentiel quand on devient brutalement étranger à ce qu'on a vécu, quand on se sent fuir de partout. J'en suis donc venu à penser à peu près la même chose que ceux qui m'agaçaient, même si c'est pour des raisons et dans des circonstances différentes. Il faudrait noter les plus petits détails de ce qu'on vit, la moindre des choses moindres, comme si on allait mourir dans la minute qui suit ou changer de planète, la suivante n'étant pas plus hospitalière que celle qu'on a quittée. Ce serait utile pour le voyage et comme un souvenir pour les survivants, plus utile encore pour les revenants, ceux qui, n'étant pas plus morts que les autres, sont allés suffisamment loin ailleurs pour n'être plus tout à fait de retour ici, dans le monde où chacun continue de vaquer à ses occupations, comme si la répétition des jours et des gestes avait un sens linéaire, établi, comme si ce théâtre était une mission. Les revenants liraient leurs notes, regarderaient vivre les autres, frotteraient leurs souvenirs et leur vie. Ils compareraient le tout dans l'étincelle produite et en s'y réchauffant, ils se rappelleraient peut-être qu'un jour ils ont vécu. Une petite pensée venue aux toilettes aurait plus d'importance pour la future victime qu'une déclaration de guerre, une réunion de travail ou la démission d'un ministre. L'écriture suspendrait le temps dont elle restitue la trame, puis, une fois la page écrite, la comédie reprendrait jusqu'au moment où elle serait brutalement interrompue. Ce ne serait pas exactement les choses de la vie, ce film de Claude Sautet où le héros revoit les moments importants de son existence, tandis que dans un accident il va la perdre. Non, il ne s'agirait pas de noter les choses essentielles, les grandes étapes, cela c'est une perspective d'homme vivant et bien portant. Il n'y aurait d'abord que les toutes petites choses, celles des dernières minutes, les toutes petites cendres de la dernière cigarette du condamné, celui qui ne sait pas encore que la sentence est prononcée et que le bourreau est en route, avec armes et bagages dans le coffre d'une voiture volée. Évidemment, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pris ces notes sur les heures qui ont précédé l'apparition des tueurs, puisque c'était une matinée comme les autres. Mais j'ai l'impression que quelqu'un l'a fait pour moi. Un farceur qui s'est fait la malle et que j'essaie en écrivant de coincer.
Un livre audio lu par Denis Podalydès. C'est le Philippe Lançon, deuxième chapitre du livre « Le Lambeau ». Alors, on était en train de discuter, on est au Salon du Livre, avec Laure Sager de Madrigal, Constance Tepula de Audible et Valérie Lévy-Soussan d'Audiolib. On était en train d'évoquer les livres, ceux qui marchent le plus, ceux qui ont un succès particulier. Est-ce qu'on est d'abord sur de la littérature ou d'autres secteurs également? Je pense aux livres de développement personnel, par exemple, Valérie Lévy-Soussan.
Oui, on a commencé à avoir de très grands succès avec des livres qui parlent de méditation. La méditation, en fait, c'est une pratique qui peut être guidée. Et effectivement, le livre audio, le livre sonore, est vraiment un très bon outil pour apprendre à méditer. Et plus généralement, les livres d'apprentissage, les livres de connaissances, ce qu'on appelle la non-fiction, est en train de se développer énormément. Alors là, c'est peut-être aussi en liaison avec le phénomène des podcasts, mais les gens utilisent leur temps libre pour apprendre et pour se nourrir de connaissances. Sapiens, par exemple, de Yuval Noah Harari, a été l'année dernière notre absolu best-seller. Et ça, c'était vraiment...
Et c'est aussi un best-seller, bien sûr, papier.
Et c'est aussi un best-seller papier, mais un livre un peu gros, ou par exemple l'histoire mondiale de la France, des choses comme ça, des livres qui sont assez longs et qui sembleraient un peu ardus, eh bien en fait, chapitrer comme ça, écouter à son rythme, deviennent tout à fait accessibles.
Alors, ça, j'ai quelques exemples de livres qui ont marché chez vous, par exemple, dans
alors,
des...
on vient de démarrer, nous, la partie non-fiction, donc on a eu quelques succès.
Ou même en fiction, la question était
alors,
plus large.
Alors, effectivement, sur la fiction, c'est assez intéressant, puisqu'on a vraiment fait un grand écart entre la littérature comme Le Lambeau et de la littérature grand public avec Gilles Le Gardinier, qui a absolument cartonné en livre audio cette année.
Et Lina Ferrante aussi, nous. Par exemple.
Alors, évidemment, bien sûr, là-dessus, on suit toutes les grandes séries et tous les grands succès. Et pour le coup, je pense que, comme le disait Valérie, la sérisation est un élément très fort en audio, puisque les gens auront tendance à aller vers des choses dont ils savent qu'elles vont se développer sur la durée. Et donc toutes les séries fonctionnent très très bien en livre audio.
Constance se stipula peut-être sur cette question.
Voilà, donc, en fait, vous avez tout à fait raison. Donc, nos meilleurs ventes, ce sont aussi les meilleurs ventes que vous allez trouver dans les livres papier. Ensuite, il y a des succès faits maison, je dirais. C'est-à-dire, il y a par exemple les auditeurs qui choisissent en fonction de la voix. Donc, Benoît Allemand, par exemple, il y a des clients qui vont mettre le filtre Benoît Allemand, qui vont regarder qu'est-ce qu'il a lu en dernier instant. Et puis, j'écoute cette voix. Donc, je suis cette voix.
On peut prendre comme exemple le Camus, Albert Camus et Maria Cazares, les lettres entre eux. Et là, c'est lu par Lambert Wilson et Isabelle Adjani, évidemment. On peut s'intéresser aussi aux voix, pas simplement aux auteurs.
Effectivement, c'était un choix éditorial tout à fait assumé et tout à fait réussi, et qui a permis vraiment de donner toute la visibilité à ces lettres. Pour le coup, c'est une sélection, hein, puisqu'évidemment, le livre faisant plus de 1000 pages, oui. On n'a pas pu tout lire. Les deux lecteurs ont vraiment porté le succès du livre audio, qui a eu un prix et de nombreux prix sur le livre audio, d'ailleurs.
On va revenir d'ailleurs à cet écosystème du livre audio qui continue à naître et à se développer en France. Juste pour revenir, Constance Cipula, sur cette fameuse enquête que vous avez faite avec Opinéa, où vous dites qu'aujourd'hui, les Français écoutent à 46% des romans, à 35% des thrillers et à 23% du développement personnel. Est-ce que c'est des chiffres qui ont évolué sur ces dernières années? Et est-ce que par rapport à vous, vous êtes présent en France, en Allemagne, aux États-Unis? Je sais que la dernière fois qu'on en avait parlé, vous nous disiez que selon les pays, les gens ne lisent pas du tout, n'écoutent pas du tout les mêmes types de livres audio. Alors la France, ça a évolué comment et quelles sont nos spécificités dans ce qu'on écoute?
Donc, pour la France, la particularité de la France, c'est en fait cette grande partie qui revient au soi-disant développement personnel. C'est-à-dire, c'est un pays très kaizen, je dirais. On veut se développer, on a envie de s'informer, de s'inspirer. Et du coup, ça se reflète dans nos ventes. C'est la littérature très classique business. C'est aussi tout ce qui est santé mentale, santé et bien-être physique qui cartonne.
Beaucoup plus que dans les autres pays?
Oui.
Et alors justement sur la littérature, c'est quoi la spécificité de la manière dont les gens écoutent de la littérature? Je crois que vous me disiez que par exemple en Angleterre, on écoute plus de littérature qu'en France ou pas?
Exactement, donc la répartition non-fiction, fiction en France, chez nous, 60-40%, 40% qui revient à la non-fiction, dans les autres pays, c'est entre 70% et même 90%. Donc c'est vraiment cette particularité française qu'on aime bien la non-fiction, qu'on aime bien écouter à une voix coaching en fait.
Mais en fait, ça veut aussi dire que les Français qui sont des grands amateurs de littérature, ils sont toujours attachés à l'objet livre pour la littérature, mesdames les éditrices. Enfin,
oui, je pense qu'en France, effectivement, on a un très grand attachement à la littérature imprimée, avec les yeux, silencieuse, à l'objet livre, mais que c'est en train de bouger, puisqu'on a fait aussi des études au sein du Syndicat National de l'édition, et où on voit qu'il y a des gens les gens qui écoutent des livres audio sont de grands lecteurs, par ailleurs. Ah, donc le livre lu, et même le roman lu, donc ça peut être de la non-fiction, mais c'est aussi de la fiction, va être lu à d'autres moments, en complément, ou même parfois, on va
en
lire
même temps
le roman, et, ouais. Alors pas en même temps, parce que ça fait vraiment appel à des capacités cognitives un peu... Voilà. Mais on peut lire un livre et puis après se dire, bon, on va l'écouter.
On va l'écouter. Mais le livre, au fond, traditionnellement, que ce soit dans les bibliothèques, dans les monastères, les premiers livres, etc., c'est d'abord un support qu'on partage dans un silence immense. Et là, le plaisir de la lecture est très souvent lié au silence, parfois aussi à l'écoute de musique classique ou autre, mais le silence est très important. Et là, on change complètement de monde.
Mais quand vous parlez de monastère, je veux dire, au départ, les livres n'étaient pas tous imprimés. Les gens, le livre imprimé, grand public, date du 19e siècle, hein, en gros. Donc, c'était vraiment le livre, les histoires, c'était vraiment oral. Et on va avoir, on va parler peut-être d'Astérix.
Retour aux sources.
Mais voilà, Astérix, on a sorti la bande dessinée sonore de Astérix. Astérix, au départ, en 1960, c'était le disque est sorti en même temps que la bande dessinée, peut-être même légèrement avant. Donc on nous demande, c'est iconoclaste de faire une bande dessinée à l'audio. En fait, non, la bande dessinée avait été conçue pour avoir des effets sonores ou graphiques.
Alors on lit et on écoute aussi de la BD, transition facile. Nous avons, ils se sont déplacés, Astérix lui-même avec Obélix sur ce plateau du Salon du Livre. On va commencer par un extrait, on ne l'avait pas préparé mais vous êtes partant pour le faire. Donc du coup on ne va pas l'écouter en version enregistrée, on va l'avoir comme ça en direct sur ce plateau. Un extrait d'Axéris le Gaulois avec les comédiens Jean-Claude Donda dans le rôle d'Astérix et Guillaume Briat dans le rôle d'Obélix. Je vous propose de les applaudir parce qu'ils vont le faire en public. Messieurs, on vous reconnaît Astérix, allez-y.
Tu reviens bientôt Astérix?
Je serai de retour pour déjeuner Obélix.
Te voici de retour Astérix, rien de spécial?
Non Obélix, ah si, j'ai assommé 4 Romains.
Ah, bon.
Tu viens manger le sanglier avec moi?
Je viens dans quelques instants, j'ai encore 2 menhirs à livrer.
Entre Obélix, le rôti est prêt.
Miam, miam, Astérix. Les Romains vont se fâcher, ils vont lancer une nouvelle offensive.
Tant que Panoramix, notre druide, continuera à préparer sa potion magique, les Romains ne peuvent rien contre nous. Allons d'ailleurs visiter le druide.
On ne veut pas me donner de potion, ce n'est pas juste. Je me sens un peu faible.
Pauvre petit bonhomme.
Bravo.
Question pour vous deux. Lire de la BD, c'est évidemment un métier.
Alors, oui, parce que, bon, je vais prendre mon cas. Je crée des voix de personnages de dessins animés depuis une trentaine d'années. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de faire ce qu'on appelait à l'époque, qui a été créé en 1953, ce sont les livres disques. Donc on a commencé à faire, parce que j'ai beaucoup travaillé avec Disney, personnage de Disney, on a commencé à faire des livres disques Disney. Ensuite, on a commencé à arriver à ces
livres audio de BD.
Et moi, tout, j'ai fait beaucoup de doublages de dessins animés, beaucoup de créations de voix de dessins animés. Et c'est vrai que faire ce genre de lecture ou doubler un film, on retourne à peu près dans les mêmes schémas.
Guillaume Briat.
Écoutez, moi, je, à défaut d'être tombé dans la potion magique, j'arrive tout juste dans l'audiolibre. Voilà, c'est la première fois que je fais ce travail, en fait. Je suis arrivé, en fait, par l'intermédiaire d'Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott, dans lequel j'interprétais le roi Burgonde, et qui m'a formidablement invité dans l'aventure d'Astérix et le domaine des dieux, donc le dessin animé qui est sorti en 2014. Et rebelote il y a 2 ans avec Astérix et le secret de la potion magique, voilà. Et Audiolib m'a contacté parce que je suis devenu la voix officielle, c'est très pédant, je suis devenu la voix officielle d'Obélix depuis 4 ans, voilà.
Mais alors justement, on va peut-être parler de la fabrication d'un livre audio, on va aborder les aspects techniques et même financiers, mais il y a à la fois cette idée qu'il y a des entre guillemets nouveaux métiers qui n'en sont pas du tout, puisque vous venez de le dire, vous travaillez dans le doublage, il y a aussi des comédiens de scène, des comédiens d'ailleurs. Quelle est la différence, vous qui avez essentiellement travaillé sur des dessins animés, là il n'y a pas le dessin qui entre guillemets vous soutient ou qui interfère avec votre jeu. Comment est-ce que vous l'appréhendez? C'est angoissant ou c'est plutôt assez excitant pour vous?
Pas du tout, parce que je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais il y a beaucoup de dessins animés dont le texte est enregistré avant de faire le dessin.
Ah, bah voilà, bah je ne le savais pas.
Notamment les derniers Astérix, c'est comme ça que ça se passe.
Qui sont calés sur vos voix, en réalité, l'animation est calée sur votre
le dessin. On a un texte, on n'a aucune bande rythmo, ouais. On a quelquefois des images pour un peu comprendre la situation, si c'est très large, si c'est au contraire une scène un peu intimiste, mais on n'a rien. Donc on a
mais là, on apprend quelque chose d'important. Bah c'est
oui,
que vous êtes le vrai Obélix et c'est les autres qui copient après, finalement.
Exactement, oui, je suis le vrai, oui. Je mange exprès avant, enfin, tout ça, c'est très sérieux. Non, mais en fait, au départ, ça vient des États-Unis. Donc, c'est-à-dire que les Américains, eux.
Obélix, ça vient des États-Unis?
Non, ne me faites pas
le
dire
concept,
ce que
la production
Américains,
des dessins animés.
Voilà, Walt Disney, ouais. Ils font comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dessins animés. Ils font les textes d'abord. Et nous, les Français, on reçoit le texte, le dessin animé fait. Donc, il y a un doublage à ce moment-là. Mais là, par exemple, avec Astérix, on n'a pas besoin des Américains. on fait directement le texte, on est même des fois filmé pendant les enregistrements, ce qui permet pour certaines fois de piquer aux acteurs qui jouent,
certains mimiques.
Les dessinateurs piquent quelques mimiques, notamment François Morel qui bouge beaucoup quand il joue son personnage, de piquer comme ça des gestes.
Voilà. Jean-Claude Danda.
Pour le placement de la bouche. Et même arrivé de filmer, alors il nous colle des pastilles sur les lèvres.
Ah, ça doit être pratique ça pour lire.
C'est très pratique parce qu'il vous filme en gros plan au niveau de...
Nous, il voulait faire ça à France Culture, mais on a dit non.
Non, mais
c'est
ça.
Sauf qu'à un moment, quand vous parlez, vous êtes dans un genre, il y a une pastille qui glisse. Et c'est très déplaisant.
Non, on prend des pastilles pour la toux, mais c'est autre chose.
Voilà, moi je suis très contente parce qu'on a, je crois, tous ici appris plein de choses sur la fabrication d'un dessin animé. Et c'est bien, mais pour en revenir au livre audio, vous l'avez dit. Vous, c'est votre premier. Je vais même poser une question un peu plus économique et large au niveau de votre profession. Cet engouement pour le livre audio, c'est aussi, disons, une nouvelle palette, une nouvelle corde à vos arcs à tous. Et j'ai bien vu aussi, on a vu au fil du temps, certains comédiens. Ben voilà, Benoît Allemagne est devenu une référence dans le milieu. C'est quelque chose d'assez nouveau. Il est là, je crois. Mais justement, question, comment est-ce que vous le voyez, vous, en tant que comédien et autour de vous, ce nouvel espace qui existait, mais disons, de manière plus minoritaire, quoi?
Ah bah oui, je trouve que c'est une formidable façon de continuer notre métier, parce que c'est un prolongement magique. Je ne peux pas en dire plus, parce que c'est vraiment ça.
Magique, c'est le mot.
Magique. Magique, c'est le mot. C'est le mot, parce que bon, c'est bien de lire chez soi, moi je trouve ça, j'adore ça. Mais quand vous pouvez communiquer par la lecture, vous pouvez passer tout ce qu'il y a dans ce livre, vous, chose que vous ne faites pas, je veux dire, parce que moi perso, quand je fais ça dans les dessins animés, chaque fois, je transforme, je fabrique des voix. Mais quelque chose que j'aime bien, c'est aussi travailler avec ma voix. Chose qui est extrêmement rare, ça m'arrive pas souvent, hein, quelques fois quand je vais acheter le pain. Mais sinon, en général, je travaille jamais avec ma vraie voix.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver. Quels sont les publics nouveaux que vous espérez avoir dans ce secteur? Mesdames, je reviens à Laure Sager, Constance Stipula et Valérie Lévy-Soussan.
Là-dessus, moi, je m'appuie sur une très bonne nouvelle que j'ai apprise à Francfort de la part des Américains, qui explique que la moitié des gens qui écoutent des livres audio aux États-Unis sont des gens qui ne lisent pas de livres.
Donc, notamment un public plus jeune, peut-être?
Alors, tout à fait, bien sûr, un public plus jeune ou un public qui avait abandonné la lecture de manière générale. Donc, c'est très intéressant pour nous parce que ça va nous obliger, en termes de programmation et même de choix éditoriaux, à offrir des ouvrages qui, justement, peuvent faire revenir des gens à la littérature en faisant attention d'être sur des choses accessibles, en tout cas dans un premier temps. Et je trouve que c'est un chemin tout à fait positif de retour vers la littérature. Ça ne va pas forcément ramener les gens à lire des livres écrits, mais en tout cas, c'est une manière d'écouter une écriture qui est de la littérature. C'est extrêmement positif et c'est une bonne nouvelle que je garde vraiment pour la suite de notre production.
Voilà, évidemment, on va y revenir, et notamment sur les États-Unis, mais j'aimerais peut-être qu'on commente ces fameux chiffres que vous avez sortis, qu'on s'en situe là, audible avec Opinéa, parce que c'est des chiffres très intéressants sur l'âge et sur le sexe aussi des gens qui écoutent des livres audio. Il y a plus d'hommes que de femmes, alors que, on le sait, on le dit souvent, les lecteurs sont souvent des lectrices, les lecteurs de littérature. C'est très intéressant. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur les âges et sur les profils de ces gens qui écoutent des livres audio, qui sont effectivement des populations, ou en tout cas des populations de lecteurs, pas tout à fait habituelles?
Voilà, donc cette étude, elle a démontré qu'en fait, l'âge moyen de l'auditeur du livre audio est 38 ans. Donc c'est assez jeune, en fait, par rapport, par exemple, l'âge moyen de l'auditeur des podcasts est à 40 ans. Donc, on est même plus jeune que les podcasts, c'est intéressant. Ensuite, c'est très bien réparti à travers tous les âges, c'est-à-dire ça commence à 15 ans, ça va jusqu'à 75, que c'est là que l'étude s'arrête. Donc, très bien si des personnes encore plus âgées apprécient aussi les livres audio. Et puis, ce qu'on voit, que 57% des personnes sont des hommes. Et du coup, la majorité, c'est masculin. C'est assez intéressant, vu notamment aussi la répartition des genres dont je viens de parler. Donc, il y a cette grande partie de non-fiction. Et je pense que ça fait aussi appel, ou ça me rappelle, en fait, les usages qu'on a monétiques. C'est-à-dire, il y a donc deux pistes de motivation pour écouter le livre audio. C'est soit parce que ça vous permet la multitâche. Donc, il y a 35% qui apprécient exactement ça.
Donc de pouvoir le faire pendant le ménage. Moi, je le ferai pendant la vaisselle.
Pendant le jogging.
C'est un peu comme la radio, pour le coup.
Donc, oui.
Donc c'est un concurrent, quoi. Hein, donc,
Ça, on va en parler après.
Et puis, il y a 58% des gens qui aiment justement ce moment de se déconnecter, qui sont fatigués d'écran, qui veulent explorer une histoire d'autre manière en écoutant. Et je veux revenir sur ce que toi, tu disais, Laure. Hein. En fait, c'est un plaisir esthétique distinct. Bon. C'est une autre manière de vivre des histoires, de s'informer, de s'inspirer. Et c'est une expérience sensorielle hyper riche.
Et les gens l'écoutent en fait beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez fait beaucoup de spots publicitaires qui vont dans ce sens-là, de gens qui se couchent avec un livre audio. Quel livre audio je vais mettre pour m'endormir? Ça, c'est un usage peut-être que vous aviez anticipé ou pas? C'est un peu comme quand on était enfant, en fait.
En fait, quand
on reste enfant, Zoé.
Avant de s'endormir, on lit des pages, de livres et tout. Là, on peut les écouter. On peut même des fois le faire la lumière éteinte, donc on ne gêne pas son conjoint ou sa conjointe. Voilà. Et c'est un grand plaisir aussi de s'endormir. C'est peut-être un peu régressif, effectivement, comme quand on était petit et qu'on écoutait des histoires. Mais c'est vrai que beaucoup de gens écoutent chez eux, tranquillement. C'est une forme de c'est pour être accompagné, en fait.
Constance Tipula.
Je pense qu'on se rappelle tous de ces moments très chéris quand on était enfant, et la mère ou le père lisait l'histoire du soir, et ça renvoie à ça. Oui, c'est une expérience très réconfortante.
On fait ça aussi en Allemagne.
Bien sûr.
Alors, je vous propose d'avoir quelques questions du public, qui est là, assez nombreux au Salon du Livre, dans cette émission de France Culture Soft Power, qui est consacré ce soir au livre audio. Mesdames, messieurs, si vous avez des questions, on vous donne la parole. Une question pour nos invités EES. Au moment où Astérix et Obélix ont quitté la scène. Monsieur, bonjour.
Bonjour. Ma question est simple. Il n'y a pas une forme de paresse dans l'audio? La lecture demande une concentration et un effort de la lecture. L'audio, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Donc, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une forme de paresse là?
Une question pour vous trois, mesdames. Est-ce que ce sont tous
des gros noms de la tête?
Ce sont tous des fainéants.
Moi, je défends la paresse. Je défends le droit à la paresse. Et effectivement, dans un monde où, comme vous le disiez tout à l'heure, on est hyper connecté, hyper sollicité, effectivement, cette passivité à laquelle on s'autorise quand on va écouter un livre audio, elle est positive pour moi. Et elle n'est pas du tout négative, vive la paresse.
Quand on lit, c'est du travail, quand on écoute, c'est du divertissement. Non, on ne peut pas dire ça.
Non, je ne pense pas que lire, c'est du travail, déjà.
je vais citer un auteur de Gallimard, mais il y avait
Valérie Lévy-Soussan.
Daniel Pénac dit que la lecture, ça doit être un plaisir. Il y a des gens pour lesquels la lecture demande un effort. Si ça demande trop d'effort, on n'aura pas de plaisir, on ne va pas rentrer dans l'histoire, on ne va pas suivre l'auteur, etc. Donc, si on a du plaisir à écouter, c'est aussi bien. Et par ailleurs, moi, j'ai eu le reproche inverse, disant, mais attendez, écouter, ça demande une concentration terrible. Ouais. Et c'est vrai que c'est une autre forme de concentration. Donc, je pense que vraiment, les deux lectures se complètent et qu'on peut pas, on peut pas dire, voilà, il y en a une, c'est pour paresseux ou pas. Donc, c'est vraiment deux choses différentes.
Une question de monsieur dans la salle.
Oui, je voulais dire, j'étais assez dubitatif par rapport à tout ce qui a été dit depuis le début. Et je suis pas loin de penser que là, on est en train de créer un nouveau marché qui est tout à fait à côté du monde de la lecture tel que je le conçois. Déjà, le livre, on a un rapport charnel avec lui, c'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir des livres chez soi, on les voit, on peut les relire, on a un plaisir évident à voir les...
On les voit aussi, hein, vous savez, ça existe.
Voilà, hein, donc, oui, mais
je DVD, pense que... Les DVD, les CD, là, les CD surtout, d'ailleurs.
Mais je pense que les livres audio seront dématérialisés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'aura plus de support. On pourra les acheter en ligne.
On les achète déjà en ligne, mais peut-être oui, d'ailleurs,
voilà,
on peut avoir des...
Donc, quand j'ai des amis chez moi, je ne leur fais pas voir mon PC en disant « Regarde ce que j'ai lu la semaine dernière. » On a toujours un plaisir évident à voir les couvertures des livres. Et ça, on ne l'aura plus. Deuxièmement, quand je vois la société Amazon qui s'intéresse à ce marché, ça me fait un petit peu peur, mais j'espère que je me trompe. Et la réflexion que je me faisais aussi, c'est-à-dire on va apporter un tiers dans le fait de lire. Ça veut dire qu'on va mettre un comédien. Et ça veut dire qu'en fin de compte, quand je vais mettre Trintignant ou Fanny Ardant sur un texte qui ne vaut pas grand-chose, je vais le gratifier. Et quid de ceux qui n'auront pas les moyens d'avoir des acteurs? Parce que quand j'écoute Gallienne sur France Inter, par exemple, qui est quand même un type qui a l'art et la manière de raconter des livres, ça donne envie. mais derrière, c'est quand même des textes qui ne sont pas n'importe lesquels, quoi. Et moi, j'ai une question fondamentale, c'est de dire, bon, on voit ici, on voit même des bouquins, bon, voilà, il y a des gens qui passent à la télé, qui font leur mémoire, et donc, quand Fanny Ardant va lire les mémoires de Drucker, qu'est-ce que ça va donner? Et pendant ce temps-là, il y aura des textes forts. Et est-ce que vous allez pas simplement accompagner un peu comme les supermarchés les phénomènes d'édition, c'est-à-dire publier et faire lire des bouquins que je ne lis pas, et pendant ce temps-là abandonner des bouquins qui eux auraient le mérite d'être
Merci
sur le marché.
Merci pour cette remarque. Peut-être une réaction, même si Michel Drucker a du succès ici, on le voit régulièrement. Allez-y. Peut-être.
Alors moi je pense qu'enfin en tant qu'éditeur, je crois qu'on fait tous à peu près le même travail, c'est-à-dire que bien sûr on va vers les livres que le public demande, c'est-à-dire qu'on va retrouver les succès d'édition et effectivement de plus en plus vite. Mais de plus en plus en même temps que le livre grand format, mais on a aussi tous des catalogues qui sont très variés et qu'il y a une quinzaine, vingtaine, trentaine, quarantaine de best-sellers par an, mais après on est chacun à choisir en fonction de nos goûts littéraires, en fonction de nos choix, quels sont les livres qu'on va pouvoir faire en audio, quel est le comédien juste pour le porter. Donc oui, il y a des choix.
Laurence Sager sur cette question,
oui,
cette
question
remarque
très
pertinente de cette
qui
auditeur.
Nous permet de parler de tout le travail qu'on fait sur ce qu'on appelle le fond, c'est-à-dire le fond du catalogue. Il faut savoir que d'un point de vue commercial, en tout cas pour le catalogue Écouter Lire, le fond, c'est-à-dire les titres anciens, sont équivalents en termes de chiffre d'affaires. On est à peu près à 50-50 entre le fond et les nouveautés. Donc on apporte une très très grande attention au fond. Et par exemple, on va là publier Les Cerfs-Volants, qui est une œuvre de Romain Gary, qui est une œuvre assez ancienne, et qu'on va reproduire là maintenant avec un très bon comédien et qu'on va remettre en avant à cette occasion-là. Donc on a vraiment cette volonté sur des maisons comme aussi Albin Michel et Hachette, qui ont des fonds magnifiques. Il y a vraiment cette volonté de travailler en même temps le fond et les nouveautés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on travaille aussi beaucoup sur ce qu'on appelle, nous, la prescription, c'est-à-dire les livres qui vont être lus à l'école. Et là-dessus, on a un travail très approfondi qui nous permet de faire qu'on va éditer en audio des livres qui vont être programmés par les professeurs. Je cite par exemple 1984, qui est un ouvrage qui, chez nous, continue à très très bien se vendre parce que, justement, il est proposé par les professeurs. Donc, bien sûr que non, on n'abandonne pas du tout les livres exigeants et les livres du fond. Et on n'hésite pas à faire aussi des livres de littérature contemporaine qui n'ont pas atteint les scores que vous évoquiez. Nous, on va produire des livres de POL qui n'ont pas, de chez POL, qui n'ont pas Arcadie, par exemple, qui ont eu un très beau succès et qui n'ont pas été dans les best-sellers. Et pourtant, qu'on aura le goût et le plaisir de présenter.
Alors,
de cette
l'instant, Laure Sager, vous avez évoqué le fond. Comme exemple, vous avez pris 1984 de George Orwell. Je vous propose justement de l'écouter. C'est un texte lu par Christian Gonon pour Écouter Lire. On a pris la fin du livre. Vous allez entendre pourquoi.
Appendice. Les principes du novlangue. Le novlangue a été la langue officielle de l'Océania. Il fut inventé pour répondre aux besoins de l'Anxos, ou socialisme anglais. En l'an 1984, le novlangue n'était pas la seule langue en usage, que ce fût oralement ou par écrit. Les articles de fond du Times étaient écrits en novlangue, mais c'était un tour de force qui ne pouvait être réalisé que par des spécialistes. On comptait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue, nous dirions la langue ordinaire, vers l'année 2050. Entre-temps, il gagnait régulièrement du terrain. Les membres du parti avaient de plus en plus tendance à employer des mots et des constructions grammaticales novlangues dans leurs conversations de tous les jours. La version en usage en 1984, et résumée dans les 9e et 10e éditions du dictionnaire novlangue, était une version temporaire qui contenait beaucoup de mots superflus et de formes archaïques qui devaient être supprimées plus tard. Nous nous occupons ici de la version finale, perfectionnée, telle qu'elle est donnée dans la 11e édition du dictionnaire. Le but du novlangue était non seulement de fournir un mode d'expression aux idées générales et aux habitudes mentales des dévots de l'Anxos, mais de rendre impossible tout autre mode de pensée. Il était entendu que lorsque le novlangue serait une fois pour toutes adopté et que l'ancilangue serait oublié, une idée hérétique, c'est-à-dire une idée s'écartant des principes de Langsos, serait littéralement impensable, du moins dans la mesure où la pensée dépend des mots. Le vocabulaire du novlangue était construit de telle sorte qu'il put fournir une expression exacte et souvent très nuancée aux idées qu'un membre du parti pouvait à juste titre désirer communiquer. Mais il excluait toutes les autres idées, et même les possibilités d'y arriver par des méthodes indirectes. L'invention de mots nouveaux, l'élimination surtout des mots indésirables, la suppression dans les mots restants de toute signification secondaire, quelle qu'elle fût, contribuait à ce résultat. Ainsi, le mot « libre » existait encore en novlangue, mais ne pouvait être employé que dans des phrases comme « le chemin est libre ». Il ne pouvait être employé dans le sens ancien de « liberté politique » ou de « liberté intellectuelle ». Les libertés politiques et intellectuelles n'existaient en effet plus, même sous forme de concept. Elles n'avaient donc nécessairement pas de nom. En dehors du désir de supprimer les mots dont le sens n'était pas orthodoxe, l'appauvrissement du vocabulaire était considéré comme une fin en soi, et on ne laissait subsister aucun mot dont on pouvait se passer. Le novlangue était destiné, non à étendre, mais à diminuer le domaine de la pensée, et la réduction au minimum du choix des mots aidait indirectement à atteindre ce but.
Un extrait de l'appendice de 1984 de George Orwell, lu par Christian Gonon. C'est un livre, écoutez lire, Gallimard. Alors, je vous propose de continuer cette émission. Il est 20h sur France Culture. Ce soir, on est au Salon du Livre et on s'intéresse au livre audio dans Soft Power. Nous sommes avec Laure Sagé, directrice du développement du livre audio chez Madrigal, qui est à la fois Gallimard et Flammarion. Constance Stipula, directrice d'Audible chez Amazon, et Valérie Lévy-Soussan, directrice d'Audiolib, une filiale d'Hachette et d'Albin Michel. Alors, on a encore quelques questions du public, quelques lectures et aussi quelques questions à vous, mesdames, sur la production. On peut reprendre une question peut-être de la salle. Bonjour, madame.
Oui, bonsoir. C'est une question qui part d'un témoignage. Est-ce que vous développez quelque chose à destination des personnes âgées? C'est-à-dire, il se trouve que je suis moi-même écrivain et que j'ai beaucoup de lectrices et lecteurs dans la famille et des gens qui, vieillissant, perdent la vue. Et par expérience, ça n'a pas du tout fonctionné. À l'audiolib. Donc ma question, elle est, est-ce qu'il y aurait à explorer des livres pour personnes âgées, grands lecteurs, mais qui ne peuvent plus tout simplement feuilleter des livres de Gutenberg, et donc savoir s'il n'y a pas, vous disiez qu'il y avait une question aussi d'attention, est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles à explorer, des nouvelles, des choses plus courtes, parce qu'il y a aussi un problème d'attention. Merci.
Mesdames, qui veut répondre peut-être? Laure Sagé.
Alors sur le formatage, vous soulevez une très bonne question sur le formatage. Effectivement, quand vous voyez la manière dont les podcasts se développent, et j'imagine que les personnes âgées, comme ce que disait Constance dans son étude, s'y intéressent beaucoup, les podcasts en général, les formats sont d'à peu près, on va dire, 15, 20 minutes, 30 minutes maximum. Et effectivement, sur les livres audio, on est sur des durées beaucoup plus longues. On réfléchit, nous, à la manière dont on pourrait découper, effectivement, les formats. La seule question que ça pose, c'est la question du prix, puisqu'effectivement, on ne peut pas vendre au même prix quelque chose qui dure 30 minutes et quelque chose
D'ailleurs,
qui dure...
D'ailleurs, c'est quoi le prix, en gros, par rapport à un livre papier? C'est quoi le rapport?
Alors, sur un grand
peu
format...
Plus cher, plus globalement.
C'est légèrement plus cher
autour
qu'un grand
25
format.
Autour de 25 euros, par exemple, si c'est un livre de 20 euros en librairie?
Non, on est entre 20 et 23. Enfin, la différence, elle est de 20 à 23 plus. Hein.
Donc, mais c'est toujours un peu plus cher, c'est ça?
C'est légèrement plus cher, mais c'est tellement plus cher à produire.
Mais du coup, est-ce qu'on peut poser cette question de la fabrication? Vous avez parlé tout à l'heure du réalisateur qui a un point de vue, etc., du nombre de temps que ça prend. Combien ça coûte? J'ai lu entre 5 000 et 10 000 euros de produire un livre audio, ce qui est quand même évidemment nettement plus cher que de sortir un livre papier. C'est quoi ces coûts? Peut-être à vous, mesdames, Constance Cipula.
Pas forcément plus cher, parce qu'un livre papier, il y a tout le travail éditorial. Nous, on est une édition seconde, c'est-à-dire qu'on prend le livre qui est déjà fait il faut qu'on effectivement paye des droits d'auteur d'un côté, mais il faut qu'on fasse toute la production. Donc on compare souvent ça au coût d'une traduction. Voilà, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que ce qu'on investit, ça va être à peu près comparable à un coût de traduction.
Vous avez évoqué les droits d'auteur. Pour l'auteur, qu'on ne doit pas oublier, c'est quel type de droits d'auteur, justement ?
Ah, c'est un pourcentage sur...
qui est négocié au coup par coup ou...
Qui est en général... l'exploitation est en général prévue dans le contrat d'édition d'origine.
Initial,
qui fait partie
ouais.
du contrat principal. Il faut le préciser, ce n'est pas un droit d'adaptation audiovisuelle. Donc, il est vraiment dans le contrat principal. Et effectivement, le taux, souvent... est prévu au moment de la négociation
et
du
contrat.
Et
c'est plus important, moins important, ça se négocie, comment ça se passe ?
C'est équivalent et ça se négocie de la même manière.
Entre 8 et 15% disons en gros.
On est dans cette fourchette-là effectivement, merci de l'avoir évoqué vous-même.
Avec des avaloirs aussi.
Effectivement, il y a la complémentarité de l'avaloir qui donc représente... Moi je le compare aussi beaucoup aux poches, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une nouvelle exploitation de l'ouvrage principal. Et c'est un relais de trésorerie, on va dire, potentiel pour l'auteur.
Et pour le comédien qui lit, quels sont les types de rémunérations qui voient...
Alors, c'est des cachets qui sont liés à la durée de l'enregistrement. Paradoxalement, il y a assez peu de réduction en fonction de la durée. Et donc, les comédiens sont rémunérés sur des bases classiques. Il y a des grilles hein, qui sont établies. Évidemment, les grandes vedettes font souvent exception, il faut quand même l'admettre.
Est-ce que je peux vous demander, parce que là on est sur des différents modèles économiques, vous vendez des livres audio à l'unité, vous Audible, vous êtes à la fois, non, vous avez aussi des avaloirs, parce que du coup il y a deux offres, il y a eu l'abonnement, il y a les livres à l'unité, il y a les livres à la location. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire, Constance Cipulin, quel est votre modèle économique, l'abonnement il coûte combien, quels sont les gens qui s'abonnent et qui achètent, à l'unité, et quels sont vos liens entre vous, parce que vous êtes avec des... Vous êtes lié à des éditeurs,
il y a des producteurs,
alors
il y a des distributeurs
que vous produisez aussi. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la configuration entre vous trois ?
Bien sûr. Donc Audible offre un abonnement de 9,95 € par mois. Ça donne droit à un livre audio d'une durée de 10 heures à peu près. Vous pouvez aussi acheter des produits à la carte en surplus. On fait des promotions pour nos membres, etc. Il y a plusieurs avantages. Ensuite, le premier livre audio est toujours gratuit, c'est-à-dire on invite à tester l'expérience. Ça convertit la majorité des gens qui ont testé, donc c'est très, ça fonctionne extrêmement bien. C'est une expérience très convaincante.
Il y a un côté évangéliste un petit peu du coup.
Absolument, non, mais c'est vraiment, je pense, je voudrais bien revenir aussi sur ce que vous avez dit. C'est pas la fin de l'âge littéraire en fait, c'est un renouvellement en fait. Homère, vous vous rappelez que la littérature, avant qu'elle n'était écrite, elle fut orale. Et du coup, on revient en quelque sorte. Du coup, c'est le narrateur qui ajoute son interprétation décente et qui fait vivre le texte. C'est extrêmement beau.
Alors, une autre question dans la salle, monsieur.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une question plus générale sur l'interaction en fait, entre les livres, les e-books et les livres audio. Bon, moi, je suis attaché au livre physique,
papier, ouais.
Voilà, papier, j'aime bien lire. Et ce que j'aime bien faire quand un livre m'a plu, c'est le partager. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de... Si la personne en face veut plutôt des e-books ou un livre audio, je peux pas lui dire, bah tiens, je te donne mon livre. Donc, est-ce que vous allez faire quelque chose, entre guillemets, un jour, pour que ça soit partageable, sans dire, bah, il faut que je rachète la version numérique, aussi bien audio ou pas audio ?
Réponse sur cette question, peut-être. Alors, Valérie Lévy-Soussan.
Justement, là, c'est une des raisons d'ailleurs du format CD et de la survivance du format CD, c'est que ce sont des boîtiers auxquels on attache
donner,
tous
donc,
et ouais. qu'on peut donner. Et là, il y avait une étude qui disait qu'effectivement, à peu près la moitié des livres du HT étaient faits pour échanger et se faire des cadeaux, ou aussi on peut les trouver en bibliothèque. Donc ce sont des livres, comme les livres physiques, qui circulent. Le CD, ça circule. Et puis, effectivement, on peut très bien, quand on a acheté un CD ou quand on a un fichier qu'on a téléchargé, vous avez, je crois, un système d'écoute familial, voilà, on peut très bien le passer, le prêter et tout. Donc voilà, les formats ont des spécificités, mais ça n'empêche pas la circulation, ça n'empêche pas aussi l'écoute ensemble. Et voilà. Et moi, je voulais juste revenir à une question de madame. C'était que il y a maintenant une offre très très large. Donc pour les personnes âgées, moi aussi j'avais un père qui plus ça allait, moins il avait d'attention qu'il pouvait soutenir. Mais voilà, il y a un grand choix maintenant, y compris sous des formes courtes, parce qu'en fait, voilà, on peut écouter de façon fragmentée, mais on peut aussi chercher des nouvelles et des choses plus courtes.
Écoutons donc un livre. Je vous propose un nouvel extrait, ce coup-ci avec un comédien qui est sur le plateau. Il s'agit de Benoît Alleman, dont on a...
Bonjour, bonjour.
On a parlé de vous tout à l'heure, vous avez rejoint. Vous allez lire un extrait que vous avez enregistré pour Audible, de Terreur, de Dan Simmons.
De Dan Simmons.
On vous écoute.
Chapitre 1. Crozier. 70 degrés 05 de latitude nord. 98 degrés 23 de longitude ouest, octobre 1847. En montant sur le pont, le capitaine Crozier découvre que son navire est assiégé par des spectres célestes. Au-dessus de lui, au-dessus du Terror, des plis de lumière chatoyante plongent, puis se dérobent en hâte, tels les bras multicolores de fantômes agressifs, mais au bout du compte, hésitants. Les doigts osseux d'ectoplasme se tendent vers le bateau, s'écartent, font mine de se refermer, puis se retirent. La température a atteint moins 45 degrés Celsius et descend à toute allure. Du fait de la brume qui s'est levée plus tôt, durant la petite heure de pauvre crépuscule à quoi se réduit la journée, les trois mâts raccourcis, on a démonté et rangé les mâts de dune, les perroquets, ainsi que les espars et les gréments supérieurs afin de prévenir tout risque de chavirage et de chute de glace, se dressent tels des arbres étêtés et ébranchés, sans ménagement, reflétant l'aurore boréale qui danse d'un horizon entreaperçu à l'autre. Sous les yeux de Crozier, les champs de glace fracturés qui entourent le bateau virent au bleu, puis au violacé, pour devenir aussi verts que les collines de l'Irlande du Nord de son enfance. Après d'un mille côté tribord, l'immense montagne de glace flottante qui dissimule l'Erebus, le sister ship du Terror, semble l'espace d'un instant trompeur, rayonné d'une couleur intérieure, d'un feu glacial brûlant dans ses entrailles. Comme il remonte son col et lève la tête, habitué qu'il est depuis 40 ans à vérifier l'état des mâts et des gréements, Crozier remarque que les étoiles autour du zénith brûle d'un éclat froid et régulier, alors que les plus proches de l'horizon, non contentes de scintiller, changent de position lorsqu'on les scrute, sautillant de gauche à droite, puis de haut en bas. Il a déjà observé ce phénomène lors d'expéditions antérieures, dans le sud, avec Ross, ainsi que dans ces mêmes eaux. Un savant, présent à son bord, qui avait passé son premier hiver austral à tailler et à polir des lentilles pour son télescope, lui a expliqué que ces perturbations étaient sans doute dues aux variations rapides de la réfraction des masses d'air froid mouvantes au-dessus de la banquise ou des terres invisibles et gelées. En d'autres termes, au-dessus de continents inconnus de l'homme, ou, dans le cas présent, songe Crozier, inconnus de l'homme blanc. 5 ans auparavant, Crozier et son ami et commandant James Ross avaient découvert un continent inconnu semblable, l'Antarctique. Ils avaient baptisé une mer, des anses et des terres du nom de Ross. Ils avaient donné aux montagnes les noms de leurs amis et mécènes. Les deux volcans visibles à l'horizon avaient reçu les noms de leurs navires, l'Erebus et le Terror. Qu'aucun point remarquable n'ait été baptisé en l'honneur du chat de bord, voilà qui ne laissait pas de l'étonner. Aucun non plus ne portait le nom de Francis Rawdon Moria Crozier. En ce jour hivernal d'octobre 1847, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, il n'y a pas un continent, pas une île, pas une haie, pas une baie, pas une anse, pas une chaîne de montagnes, pas un ice shelf, pas un volcan, pas même un putain de flot qui porte son nom. Crozier n'en a strictement rien à foutre. Alors même qu'il formule cette pensée, il se rend compte qu'il est un peu ivre. « Eh bien, se dit-il en compensant automatiquement le gîte du pont qui penche de 12 degrés vers tribord et de 8 vers la proue, je n'ai guère été sobre ces 3 dernières années, pas vrai? Pas depuis Sofia. Mais même bourré, je suis meilleur marin et meilleur capitaine que ne l'a jamais été Franklin, ce crétin tempérant et guignard. Sans parler de Fitz-James, son caniche zézayant aux joues roses. » Secouant la tête, Crozier s'avance sur le pont glissant, en direction de la proue, et du seul homme de quart lui permet de distinguer la lumière clignotante de l'aurore boréale. C'est Cornelius Aiki, l'aide Calfa, un marin de 26 ans à face de rat. La nuit, tous les hommes de quart se ressemblent, car on leur a distribué la même tenue de froid, plusieurs couches de laine et de flanelle, recouvertes d'un grand manteau imperméable, de grosses moufles émergeant des manches volumineuses, une perruque galloise, un bonnet marin qui protège les oreilles, vissé sur le crâne, une large échappe enveloppée autour de la tête, ne laissant sortir qu'un bout de nez gelé. Mais chaque homme a sa façon d'entasser ou de porter ses frusques, y ajoutant un cache-nez ou un bonnet supplémentaire, ou encore des gants tricotés avec amour par une mère, une épouse ou une fiancée, gants que l'on distingue en dessous des moufles réglementaires. Et Crozier a appris à identifier chacun des 59 survivants de son équipage, même de loin et dans le noir.
Merci infiniment. Je vous propose de l'applaudir, Benoît Allemann, Terreur de Dan Simmons, enregistré pour Audible. On n'a pas eu le livre entier, mais on a eu un extrait assez conséquent. Vous êtes dans Soft Power sur France Culture jusqu'à 20h30. On est au Salon du Livre. Je vous propose de terminer cette émission en évoquant l'avenir maintenant. Et peut-être pour commencer, une question à vous, Benoît Allemann, puisque vous êtes resté après cette lecture en direct. L'avenir du livre audible, du livre audio, vous le voyez comment ?
Ah ben, je vois un développement de cet art, parce que c'est un art. Mais vous savez, moi, je ne suis pas technicien.
Moi, en même temps, vous faites ça régulièrement, puisque contrairement à d'autres maisons d'édition qui ont tendance à choisir un comédien par livre, vous faites régulièrement des livres pour Audible.
Et écoutez, moi je suis comédien et je vais où on me demande. Voilà, c'est tout, c'est simple.
Vous êtes venu ici parce qu'on vous a demandé, voilà. Voilà.
Et comme je trouve que raconter une histoire, c'est extraordinaire. Le métier de comédien, c'est quoi ? C'est nous sommes des intermédiaires entre un auteur, des auditeurs, des téléspectateurs ou du public. Nous sommes là pour transmettre le message de l'auteur. Et c'est formidable de prendre les auditeurs ou les spectateurs par la main et de les emmener à la découverte d'une aventure extraordinaire.
Par l'oreille, en l'occurrence.
Mais que ce soit même un livre philosophique ou de recherche, il faut trouver le ton, là, quand il s'agit d'expliquer des choses. Mais on peut le faire avec le sourire.
Vous avez des préférences ?
Non, moi j'aime tout. C'est prétentieux. Je peux me tromper complètement. Hein. Je l'avoue, d'ailleurs, là tout à l'heure j'ai fait une erreur. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte. J'ai rajouté un mot parce que j'avais perdu
le sens. On l'avait noté, bien sûr. Mais,
ah ben voilà, bon. En studio, on aurait dit, dis donc, andouille, on revient en arrière.
Non, on ne parle pas comme ça, on ne dit pas andouille à France Culture.
C'est toujours très amical. Non mais, vous savez, quand on est parti pour raconter une histoire, quelquefois, on est un peu débordé par le rythme. Il faut toujours tenir les rênes du cheval. Et puis surtout, rester fidèle à la pensée de l'auteur.
Voilà. Mesdames, peut-être pour conclure, sur l'avenir, risque de piratage, risque de monopole par les GAFA, dont un est
c'est
invité ce soir, les enceintes connectées, le podcast aussi, comment vous voyez cet avenir sur ces différentes questions, peut-être Laure Sager ?
Je vois un avenir radieux. sur le piratage, effectivement, quand vous commencez à être piraté, d'une certaine manière, c'est très bon signe. On a vu que sur les livres numériques, le piratage n'a pas été aussi dramatique qu'on aurait pu le
pour
craindre.
Pour la musique, par exemple.
Comme pour la musique, effectivement. L'avantage qu'on a par rapport à la musique, c'est qu'on arrive, nous, dans un marché de masse, à un moment où les questions de piratage qui ont été posées pour la musique ont déjà été réglées.
En partie.
La question pour nous, ça va être la manière dont on va passer à un mass market. Et les questions qui restent quand même très en suspens aujourd'hui, c'est les modalités de commercialisation et notamment la question de l'abonnement illimité, voilà, qui sera crucial dans les prochaines années. Et là-dessus, il faut regarder le marché, les autres marchés sur lesquels...
Le Netflix du livre audio numérique.
La question va forcément se poser, et nous, en tant qu'éditeurs, on se la pose par anticipation avec une certaine angoisse à cause de la rémunération des auteurs à laquelle nous sommes très attachés.
Valérie, on pourrait imaginer, par exemple, excusez-moi, une alliance des éditeurs pour proposer, par exemple, avec un SNE, une plateforme d'abonnement comme le fait aujourd'hui Audible, avec qui vous travaillez par ailleurs, mais est-ce que vous imaginez ce genre de... Si on regarde à 5-10 ans...
Alors, je crois que pour l'instant,
Valérie Libby-Soussan.
Voilà, vous avez parlé des GAFA et tout. D'abord, ils sont plusieurs. Hein.
Il y a le G, le A, le F,
voilà.
Le A,
oui. Il y a Google, etc. Donc, il y a plusieurs plateformes. Il y a aussi des plateformes françaises, des petites plateformes. Il y a Boucle d'Oreille qui a fait un travail remarquable d'éditorialisation de notre catalogue. Donc, tous les éditeurs donnent leur catalogue sur toutes les plateformes, à condition qu'effectivement, il y ait des modèles qui soient corrects pour la rémunération des auteurs et des producteurs, c'est-à-dire l'achat à l'acte ou l'abonnement. L'abonnement par, comme on dit, par jeton. Il y a aussi Kobo qui est Kobo avec la Fnac. Donc voilà, il y a plusieurs plateformes qui ont ces systèmes de rémunération. Alors après, est-ce que on va faire des plateformes au sein du SNE en s'associant
syndicat national de l'édition.
Oui, syndicat national de l'édition, pardon, en s'associant entre
ça,
plusieurs éditeurs.
Ça c'est un peu Astérix, c'est les Gaulois contre les
voilà.
GAFA.
Je pense non qu'il y a toujours de nouvelles. En fait, ce qui est bien, puisqu'il y a eu maintenant une éclosion du livre audio, c'est qu'il y a maintenant de plus en plus d'acteurs et d'intermédiaires qui s'y intéressent et de diffuseurs. Donc, ça va peut-être pas être le syndicat national de l'édition ou un groupement d'éditeurs, mais il y a d'autres formes qui émergent, autant aussi pour les podcasts. Les podcasts, là, il y a une éclosion des podcasts et il y a aussi des plateformes et tout qui vont essayer de les présenter mieux.
Mais un podcast, c'est globalement gratuit pour l'instant.
Oui, le podcast est globalement gratuit. Le livre audio n'est pas.
Tous les modèles qui ont pu se financer récemment, comme Magellan ou comme Cybelle, se sont quand même financés sur la promesse d'un abonnement qui, à terme, sera payant, puisqu'aujourd'hui, le modèle économique n'est pas vraiment en place.
Et vous, Amazon, à Audible...
Constance Tipula,
Audible,
Amazon
alors,
Audible.
Comment ça marche ? Sponsorise des podcasts, c'est-à-dire que sur Audible, il y a un abonnement, il y a des livres audio, il y a aussi des podcasts que vous soutenez. Et par exemple, quand on écoute Transfert de Louis Média, il y a une pub pour Audible, puisque vous sponsorisez ce podcast et qu'on peut le trouver quand on est abonné sur Audible. Comment vous les voyez, les relations avec les producteurs de podcasts, vous qui êtes présents dans d'autres pays, dont les États-Unis, où là aussi, il y a quasiment 5 ans d'avance sur le podcast, où il y a une bulle du podcast qui serait en train d'exploser ou pas. Ce futur du lien entre le podcast, le livre audio et la question de la préconisation, parce qu'on est à 4-5 ans de l'enceinte connectée, on imagine, on se doute que vous travaillez sur ces questions à Audible et au sein de votre maison mère qui est, rappelons-le, Amazon.
Voilà, c'est tout à fait correct. Donc nous, on pense qu'on est au début d'une ère du son avec le lancement des enceintes connectées, l'essor du podcast natif en France, le succès du livre audio digital, mais aussi avec la genèse et la création de nouveaux formats en audio sonore, comme par exemple les séries originales que nous travaillons. Donc, on pense que
séries
tout ça...
uniquement sonores, donc que vous mandatez des écrivains qu'on connaît pour
exactement.
Écrire des séries uniquement pour le son et en exclusivité pour vous, en fait.
Oui, l'exclusivité, c'est l'aspect commercial. Sinon, oui, donc il y a toute cette grande catégorie qui est en train de se constituer,
ouais.
De se construire. Et du coup, pour nous, le podcast, c'est une phase intermédiaire, en fait. Le livre audio, c'est une sous-catégorie. Et ce qu'on va voir probablement d'ici en 5 ans, ça va être une grande catégorie d'audio parlé. Et les formats vont soit être payants ou non payants. Ils vont être basés sur des livres ou ça va être des textes conçus pour l'audio. Va donner une grande catégorie nouvelle à explorer, à apprécier.
Une question aux éditrices aussi. J'ai vu qu'aux États-Unis, pour la première fois, l'auteur de thriller Brian Freeman, qui est édité en France auprès de la Cité, va sortir son prochain roman uniquement en audio en 2019. Et il y a du côté des éditeurs américains l'idée de la formule dite podcast first, c'est-à-dire on enregistre un livre audio, on le donne au public d'abord en audio et ensuite on fait paraître la version papier. Ça, comment est-ce que vous le regardez et est-ce que vous êtes prêt à envisager avec certains de vos auteurs de ne sortir que des livres audio ou pas? Quelle est la pétence aussi de vos auteurs pour ce type de configuration?
Alors la préconfiguration en livre audio d'abord, c'est hyper intéressant. C'est plus du marketing, je pense. Voilà. Donc, mais c'est pas du tout inintéressant. Nous, on est en train de réfléchir, même chez Flammarion, à effectivement publier des sortes de prequels sur des romans à sortir en livre audio avant la sortie papier. Donc, c'est vraiment des réflexions qu'on a.
Un peu marketing,
comme une sorte
pour le
de
coup,
teaser,
marketing.
En fait, c'est ça.
Mais effectivement, d'un point de vue éditorial, notre maison réfléchit et certainement Audiolib aussi avec Hachette à la production d'audio originals, effectivement, de livres qui vont être écrits pour l'audio dans un premier temps. Avec la question du format qui va être du coup anticipée, de manière à ce que ce soit plus facile de l'aborder. Et je pense que si, pour les auteurs, c'est un relais de création intéressant. C'est-à-dire que le livre écrit, le grand roman, est toujours un moment de pression absolue. Et finalement, le fait d'écrire peut-être entre deux grands romans une petite série sur de l'audio, ça peut être un moyen pour eux de diversifier leur création et d'avoir des choses sur lesquelles ils ont peut-être moins de pression.
Quel est le chiffre, les chiffres, c'est quoi un best-seller, par exemple, audio, par rapport à... Quelles sont les ventes importantes?
Alors, je dirais que pour l'instant, en France, moi, un best-seller audio, il va pouvoir atteindre les 30 000 exemplaires, peut-être. On en est là. Il y a quelques années, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit 5 000. Donc, c'est déjà une grosse progression. Ouais. Aux États-Unis, on va être plutôt... j'ai des chiffres de livres audio qui se vendent à 200 000 exemplaires en audio. C'est quand même considérable. Donc là, effectivement, à 200 000 exemplaires, on peut... faire des choses différentes. Important. Mais la circulation entre l'audio, de l'écrivain, etc., ça rappelle aussi un petit peu les radios dans les années 80. Je veux dire, quand il y a eu les radios libres, il y a eu une explosion de créativité, il y a eu des écrivains qui faisaient des séries, etc. Et donc voilà, là, on a un nouveau moyen de diffusion et il y a des choses qui vont s'organiser. Il y a des formats qui vont tomber, il y en a d'autres qui vont survivre. Il y a des modèles économiques qui doivent se trouver. Parce que les modèles
aujourd'hui, c'est pas rentable ou c'est pas rentable encore le livre audio est rentable.
Bien sûr. Mais pour l'instant, à chaque fois que j'interroge les gens sur le modèle de podcast, on se dit qu'on ne sait pas.
On est en transition encore.
Voilà, c'est une transition, il y a des choses qui vont se trouver. Mais en ce moment, effectivement, on est face à une explosion sonore et d'écoute qui est très intéressante.
Il y a aussi des offres aux États-Unis avec des studios, ou en tout cas, par exemple, Audum, je ne sais pas si j'arrive à le dire bien, mais qui fait du livre audio et qui fait aussi, par exemple, de la mise en oralité de grands papiers comme ceux du New Yorker, comme ceux du Times, des très très longs papiers. Ça, c'est des champs, je parle à vous, Constance Cipula, mais peut-être aussi à vous, qui parfois, certaines maisons d'édition sont aussi des distributeurs et des éditeurs de presse, de ce qu'on appelle des MOOC 21, etc. Est-ce que ça peut être aussi un horizon, c'est-à-dire une espèce de presse ou de non-fiction assez importante?
On a fait deux tests avec Technicart et avec Vanity Fair, hein, qu'on a stoppé pour le moment parce que juste réécrire en audio ce qu'on peut lire, ça fonctionne pas. Par contre, il y a par exemple Slate qui avait développé un programme natif, Transfer, qui a un grand succès. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment s'approcher de l'audio avec un esprit audio. Donc, écrire, concevoir pour l'audio et la presse est là et elle va la faire.
Et puis on aura en juin prochain, dans quelques semaines, le premier salon du livre audio. Ce sera à Montreuil, comme quoi tout ça progresse et Soft Power, dans cette émission dédiée aux industries culturelles, aux industries créatives, aux médias, aux évolutions du numérique, essaye de suivre cette actualité, suivre aussi ces évolutions dans ces domaines. Et c'est pour ça qu'on a fait cette émission ce soir. Mesdames, merci. Vous étiez parmi nous. On a eu aussi des comédiens, Benoît Alman, Jean-Claude Donda et Guillaume Bria, Véronique Ovaldé a lu un extrait de Personne n'a peur des gens qui sourient. Merci à Valérie Lévy-Soussan, directrice d'Audiolib, Constance Stipula, directrice d'Audiolib, et merci à Laure Saget, directrice du développement du livre audio chez Madrigal. Merci Zoé Sfès d'avoir été dans Soft Power ce soir. Cette émission se termine. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes, sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power, on peut aussi écouter la radio en podcast d'abord et avant tout. La semaine prochaine dans Soft Power, je recevrai Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine d'archéologie de France Culture de Vincent Charpentier. Merci à toutes, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.